Radio Vatican, France et Afrique.
Amis auditeurs, vous êtes à l'écoute de Radio Vatican. Libre de choisir entre migrer ou rester, c'est le thème du message du pape pour la prochaine journée mondiale du migrant et du réfugié. Il a été rendu public mardi par le dicaster pour le service du développement humain intégral. Dans cette édition, nous serons au Kenya. Le pays vit depuis lundi le mouvement de contestation contre la vie chère. Bien avant le déclenchement de ces manifestations, les évêques catholiques avaient dans une déclaration exprimé leur inquiétude suite à cet appel à manifester de l'opposition. La conférence épiscopale kenyane avait invité toute la classe politique à la retenue et au dialogue. Au Togo, la visite pastorale du nonce apostolique, Mgr Maïès, dans le diocèse d'Anio, a pris fin dimanche par une célébration eucharistique. Le parti au pouvoir au Nigeria est en tête à l'issue des élections locales sous tension. Nous en parlons dans l'actualité sociopolitique qui nous conduira notamment en Afrique du Sud, où au moins 550 arrestations ont eu lieu lors de manifestations sous haute surveillance. La deuxième partie de cette édition sera notamment consacrée au combat que mène l'Église pour la restauration de la dignité de milliers d'enfants accusés de sorcellerie et rejetés par leur propre famille et la société dans plusieurs pays en Afrique. Soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition de notre programme.
Radio Vatican, France et Afrique, Françoise Niemier.
Libre de choisir entre migrer ou rester, c'est le thème du message du Saint-Père pour la 109e journée mondiale du migrant et du réfugié 2023 qui sera célébrée le dimanche 24 septembre prochain. Il a été rendu public mardi 21 mars par le dicaster pour le service du développement humain intégral. Libre de choisir entre migrer ou rester, à travers ce thème, l'intention du Saint-Père est de promouvoir une nouvelle réflexion sur un droit qui n'a pas encore été codifié au niveau international, le droit de n'avoir pas à émigrer, en d'autres termes, le droit de pouvoir rester sur sa terre. Afin de mieux préparer la célébration de cette journée, le dicaster pour le service du développement humain intégral lancera une campagne de communication visant à favoriser une compréhension approfondie du thème du message à travers des supports multimédia, des documents d'information et des réflexions théologiques. Le Saint-Père a nommé mardi Mgr Thomas Grissa, nonce apostolique à Madagascar et aux Seychelles, et délégué apostolique aux Comores, délégué apostolique auprès de la République de Maurice. Au Togo, c'est notre correspondant qui nous rend compte de la fin de la visite pastorale de 3 jours du nonce apostolique Mgr Marc Gérard Maïès dans le diocèse d'Anio. Cette visite s'est achevée dimanche.
L'ambassadeur du Saint-Siège a visité plusieurs œuvres et institutions. Il a également rencontré le presbytérium avec qui il a prié les vêpres sur la paroisse Notre-Dame du Saint-Sauveur à Enfouin. Il a échangé en outre avec les religieuses et les religieux au Cénacle à Vaux-Pédacogne ainsi qu'avec différentes organisations du laïcat diocésain à la cathédrale avant de conclure sa visite avec la célébration de la Sainte Eucharistie ce dimanche. Il s'en réjouit et invite tous à témoigner de la proximité de Dieu au présent.
C'est pour moi une grande joie d'être ici, surtout pour porter la bénédiction du pape François à l'église d'Aného. Je dois constater que c'est une église jeune, une église pleine d'énergie, pleine de vivacité. Et c'est que je crois que c'est très important, vous savez mieux de moi que le pape, il voudrait souligner que notre mission dans l'Église, c'est faire présente le Seigneur, que Dieu est proche à nous. Et ce que je constatais, j'ai observé que l'Église, c'est en pleine fonction de transmettre vraiment que Dieu est proche à son peuple.
Gustave Wam, Dapon pour Radio Vatican.
Au Kenya, au moins un manifestant tué, plusieurs personnes arrêtées et 31 policiers blessés. Le mouvement de contestation contre la vie chère dans le pays a vécu lundi une première journée de violence à Nairobi. L'appel à manifester avait été lancé par Raila Odinga. Le candidat malheureux à la présidentielle de l'été dernier a promis des manifestations tout le lundi jusqu'à ce que les Kenyans obtiennent leurs droits. Bien avant le début de ces manifestations, les évêques catholiques du Kenya avaient mis en garde les acteurs politiques de ce pays d'Afrique de l'Est contre les propos et les actions qui incitent les citoyens à la violence. Christian Cambé.
La guerre a commencé. Elle ne se terminera pas tant que les Kenyans n'auront pas obtenu leurs droits. C'est par ces mots que le chef de l'opposition, Raila Odinga, avait appelé ses soutiens à manifester chaque lundi contre l'inflation et le gouvernement. La première journée de ces manifestations hebdomadaires a été marquée par des affrontements entre forces de l'ordre et partisans de l'opposition. 238 personnes ont été arrêtées et 31 policiers blessés lors de ce premier trouble majeur depuis l'arrivée au pouvoir de William Ruto. Deux jours avant les manifestations, l'épiscopat du Kenya avait mis en garde le gouvernement et l'opposition contre une escalade de la violence. Les citoyens kényans sont confrontés à de nombreux problèmes, comme la famine et la faim, ainsi que le coût de la vie. Tout en essayant de les résoudre, il ne faut pas les aggraver par le risque de violence, ont averti les membres de la conférence épiscopale du Kenya dans leur déclaration du 18 mars. Les évêques appellent les acteurs politiques, par-delà leur clivage, à dialoguer et à chercher des solutions aux problèmes des Kenyans dans le respect de la Constitution. Ils les invitent à adopter un leadership de service et non d'égoïsme, un leadership de dialogue et de non-violence, rappelant l'exhortation du pape François lors de sa récente visite en RDC et au Soudan du Sud.
Et nous restons au Kenya pour ouvrir l'actualité sociopolitique africaine. 25 000 tonnes de blé ukrainien sont arrivées au port de Mombasa. Première livraison de ce pays grâce à l'initiative Grain from Ukraine, une opération lancée par le président ukrainien Zelensky pour venir en aide aux pays africains en proie à une crise alimentaire majeure exacerbée par la guerre en Ukraine. À Mombasa, la correspondance de Charlotte Simonard.
Cet immense paquebot aura mis plus d'un mois pour arriver ici à Mombasa depuis le port d'Odessa en Ukraine. Une traversée possible grâce au corridor humanitaire en mer Noire, mais ralentie par les contrôles russes, comme l'explique le capitaine.
Maintenant, quand on passe par la mer Noire, on est arrêté pour l'inspection. Ils regardent partout si on ne transporte pas des armes ou autre chose.
25 000 tonnes de blé financées par plusieurs pays européens à travers le Programme alimentaire mondial des Nations Unies. Tout un symbole pour l'ambassadeur ukrainien au Kenya, Andrei Pravednik.
Nous sommes heureux que malgré l'invasion russe en Ukraine, nous soyons capables d'acheminer ce blé au Kenya. Assurer la sécurité alimentaire du monde, ce n'est pas seulement faire preuve de responsabilité, c'est aussi une arme diplomatique. Nous montrons ainsi au Kenya et aux autres pays d'Afrique qui a raison et qui a tort.
Cette livraison vient à point nommé dans un pays frappé par une crise alimentaire majeure. Le vice-président kényan applaudit.
C'est très important car nous venons de traverser quatre saisons de pluie insuffisantes. Plus de 5 millions de Kenyans souffrent de la faim.
Mais n'y voient pas pour autant un rapprochement avec l'Ukraine.
Nous ne nous occupons pas des problèmes extérieurs. Quiconque veut nous aider est le bienvenu.
Ce blé venu d'Ukraine sera distribué dans le nord du Kenya. Charlotte Simonard, Nairobi pour Radio Vatican.
La Tunisie a rejeté mardi les propos selon elle disproportionnés du chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, qui s'était inquiété la veille de la situation dans le pays, redoutant son effondrement. Cette réaction survient alors qu'une délégation de l'Union européenne était attendue mardi en Tunisie pour évaluer la situation dans le pays, en proie à une grave crise socio-économique et où l'opposition dénonce un recul des droits et des libertés depuis que le président Kais Saied s'est arrogé les pleins pouvoirs en juillet 2021. Des sources locales et sécuritaires ont annoncé mardi la mort de 11 civils, dont 5 supplétifs de l'armée tués dimanche et lundi lors de plusieurs attaques de djihadistes présumées dans le centre-est et l'est du Burkina Faso. Le parti au pouvoir au Nigeria a remporté la majorité des postes de gouverneur, notamment à Lagos, après dépouillement de plus des deux tiers des votes de ce scrutin tenu dans la foulée de la présidentielle et marqué par des violences et des irrégularités. Le pays le plus peuplé d'Afrique, environ 215 millions d'habitants, a voté samedi pour élire plus de 900 représentants des assemblées des États ainsi que les gouverneurs de 28 des 36 États. En Afrique du Sud, plus de 550 personnes ont été arrêtées lundi, selon les autorités, lors de manifestations à l'appel d'un parti radical de gauche qui ont fait craindre une répétition des émeutes meurtrières de 2021. Des milliers d'enfants accusés de sorcellerie sont victimes de rejets par leurs propres familles respectives et sont soumis à des traitements quelquefois inhumains. Cette réalité est vécue dans plusieurs pays d'Afrique. Dans une interview accordée à Radio Vatican, Jean-Luc Motusami, journaliste et directeur de Media Expertise de Suisse, revient sur la situation que vivent ces enfants et le combat de l'Église pour la restauration de leur dignité.
Ce sont en général des tout petits, jusqu'à l'âge de 10-12 ans. Ce sont des enfants qu'on accuse de tous les maux. Il suffit qu'il y ait un malheur dans une famille, il suffit qu'il y ait un problème de perte d'emploi, de fermeture d'entreprise, de grands-parents qui meurent, de papa ou de maman qui décède, pour qu'on accuse ces enfants. Souvent, ce sont des enfants qui sont soit en situation d'handicap, par exemple épileptique, ou bien des enfants qui sont surdoués, capables de réaliser des choses. Et ce sont ces enfants-là qui sont ciblés et ces enfants sont accusés de choses qu'ils n'ont pas commises.
Quels sont les traitements qui sont infligés à ces enfants accusés de sorcellerie ?
Ils sont mis de côté, battus. Ils sont envoyés notamment au nom de Dieu chez certaines personnes qui se disent pasteurs et qui les prennent pour soit les obliger à avouer ou pour essayer de faire partir le démon qui est en eux. Alors ces enfants sont rejetés. Quand on a cette étiquette d'enfant sorcier, c'est que pour la vie, on traînera cette étiquette. Malheureusement, oui, j'en ai été témoin à Mbandaka. Il y a eu des pasteurs d'église de réveil qui ont par exemple enlever une petite fille, qui lui ont brisé les jambes jusqu'à ce que cet enfant qui n'avait que 6 ans avoue qu'elle était sorcière. Je veux dire, même nous adultes, si on nous enlevait et qu'on commençait à nous briser les jambes, je pense qu'on avouerait beaucoup de choses que nous n'avons pas faites. Et ce sont ces personnes qui se disent hommes de Dieu qui commettent des crimes odieux sur ces enfants.
Et parlant des causes, quelles en sont selon vous les principales causes ?
C'est d'abord la situation économique. Souvent, ce sont dans des endroits où le pays a lui-même souffert, où la communauté a souffert. Je pourrais prendre par exemple, là, c'était en République démocratique du Congo. C'est aussi le cas en République centrafricaine, pays qui a connu la guerre. Aussi au Nigeria, dans certains coins, qui sont secoués soit par des situations de terrorisme ou des situations de précarité. Également au Togo, et là, on va en Afrique de l'Ouest, où il y a dans certains villages, des enfants qui sont accusés de sorcellerie.
Comment l'Église s'organise-t-elle pour combattre cette dérive sociale ?
L'Église tend les bras. J'ai vu comment l'Église recueillait ses enfants. L'Église essaye de leur donner tout simplement de l'estime de soi. Donc ces enfants-là se retrouvent très souvent à être scolarisés par les religieuses dans les couvents. Mais aujourd'hui, l'Église catholique est l'une des rares institutions. Je sais que l'Église anglicane également contribue énormément, l'Église presbytérienne également. Je sais que l'Église réformée dans certaines parties d'Afrique fait un énorme travail. Mais il y a quelques cas où des hommes et des femmes publics sont venus de l'avant, notamment au Congo, qui ont osé élever la voix pour justement souligner que ces enfants sont des citoyens qu'il faut respecter.
Jean-Luc Motusami, journaliste et directeur de Media Expertise de Suisse, dans une interview réalisée par Myriam Sanduno. Terminons par la rubrique « Prise de position des évêques et vie des chrétiens dans le monde » avec Marie-Josée Mwando-Boboalo.
Commençons cette rubrique par le Brésil. Le secteur de radio de Signis, Brésil, en collaboration avec la Commission épiscopale pour la communication de la Conférence épiscopale nationale, a publié les données partielles du premier recensement des radios catholiques du pays au 8 mars. 139 stations de radio avaient répondu, dont 27 opèrent encore sur la fréquence AM et sont en train de migrer vers la fréquence FM. 98 autres stations de radio sont en FM. 14 web radios ont également répondu à l'enquête. Sur les 139 stations qui ont participé au recensement jusqu'à présent, 77 sont gérées par les archevêchés et des diocèses, 26 par des congrégations religieuses, 12 par des paroisses et 24 par des entrepreneurs ou des fondations autonomes. Nous savons par expérience que les chiffres sont plus élevés, mais nous attendons encore les réponses de certaines régions du pays, a déclaré Felipe Zangari, coordinateur de Signis Radio. Ces données partielles du recensement, a poursuivi M. Zangari, révèlent des choses très importantes. Tout d'abord, la force des diocèses, puis le soutien important des congrégations religieuses qui soutiennent également des projets de communication dans diverses régions du pays et la nécessité de travailler ensemble en communion avec l'Église, en témoignant de l'Église. En Terre Sainte, pour la première fois, une école chrétienne a été mitraillée le 16 mars par deux personnes à moto. Ce sont des passants qui ont donné l'alerte et appelé la police, raconte Mgr Rafik Nara, le vicaire patriarcal latin en Israël.
Alors, les sœurs étaient à l'intérieur et une motocyclette est passée dans la rue. Et puis, deux personnes qui sont sur la motocyclette ont mitraillé le bâtiment de l'école. Les sœurs qui étaient à l'intérieur n'ont pas compris au début, mais ce sont les passants qui ont eu peur et qui ont appelé la police. C'est la première fois que cela arrive. Nous n'avons pas l'habitude de tels événements violents, particulièrement en rapport avec nos écoles. Nos écoles ont une bonne réputation. C'est un lieu ouvert. Élèves chrétiens, musulmans, c'est un lieu de vie commune et c'est complètement inattendu. Donc c'est pour cela qu'il faut réagir d'une façon très claire à cet événement. Il faut rappeler que ces quelques dernières années, il y a beaucoup de violence en général dans le pays quand même, en Israël, mais en particulier dans la société arabe, dans les cités arabes. Et il y a beaucoup d'événements de tirs, comme cela est arrivé à l'école. Alors il y a des tirs contre des personnes. Parfois, il y a aussi beaucoup de formes d'extorsion d'argent ou de prêts usuraires qui peuvent mener à des violences physiques. Mais jusque-là, nos écoles ont été indemnes. C'est-à-dire qu'en fait, nous n'avons jamais eu de tels événements dans les écoles et nous voudrions surtout garder nos écoles en dehors de ce cercle de violence, particulièrement puisque ce sont des enfants qui viennent. Donc en réalité, on a écrit une lettre au ministère de l'Éducation, au ministère de l'Intérieur et des Affaires étrangères, puis à d'autres responsables pour demander que véritablement il y ait une investigation pour arrêter les personnes qui ont commis cet acte. Ça ne peut pas passer sous silence, c'est extrêmement grave.
Mgr Rafik Nara, vicaire patriarcal latin en Israël, dans des propos recueillis par Xavier Sartre. Aux Philippines, la construction de la nouvelle chapelle de la Divine Miséricorde a été lancée pour le carême 2023 avec la pose de la première pierre dans l'archidiocèse de Manille par l'ordinaire du lieu, le cardinal José Advíncula. La chapelle est un lieu où, à tout moment, une personne peut s'approcher du sacrement de la réconciliation. Les portes sont toujours ouvertes pour revenir au Seigneur qui nous attend, a déclaré le cardinal Advíncula. Jésus, a-t-il poursuivi, est le visage visible de la miséricorde de Dieu. Il nous montre la patience miséricordieuse de Dieu qui suscite en chacun le désir profond de revenir à lui, quel que soit le nombre de péchés et d'erreurs que nous avons pu commettre dans notre vie. Dans le sacrement de la réconciliation, nous rencontrons l'amour sans limite du cœur de Jésus. Terminons cette rubrique avec l'Église qui est en Malaisie. Un total de 852 catéchumènes se préparent spirituellement à recevoir le sacrement du baptême au cours de la veillée pascale du 8 avril en ne considérant que les communautés catholiques de la Malaisie péninsulaire. Et notre groupe de 789 catéchumènes se trouve dans les régions de Malaisie-Bornéo. La célébration promet d'être un moment très émouvant pour eux et leurs familles. L'Église de Malaisie indique que leurs noms seront inscrits dans le livre des élus, marquant ainsi le début de la phase finale de préparation à la réception du sacrement qui fait d'eux des membres à part entière de la communauté ecclésiale.
Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
Mes auditeurs, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition qui vous a été présentée par Françoise Agnamia. Merci de l'avoir suivi en notre compagnie. À très bientôt.
En ta tendresse, Seigneur, effaçons mon péché. Lave-moi.